Est-ce que vous êtes prêts à entendre une bonne nouvelle? Donc, je vous invite à prendre vos Bibles. Si vous êtes venu avec une Bible ce matin, je vous invite à la prendre dans vos mains. Sinon, il y a une feuille qu'on a distribuée à la porte avec presque tous les versets que nous allons étudier ce matin, qui sont marqués là-dessus. Et ici, à la Vie Comblée, nous avons fait une petite déclaration de la foi. Parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche, en croyant du cœur, que ça s'accomplit. Donc, on ne veut pas juste écouter un message comme on va écouter une émission dans la télévision, mais on veut vraiment être au diapason de l'Esprit. On veut croire que le Saint-Esprit va nous parler. Combien de vous croyez que Jésus est vraiment vivant? Que Jésus-Christ est le chef de l'Église? Il y a quelques-uns qui n'ont pas levé la main. Est-ce qu'il y a des gens... Combien de vous... Je vais poser encore la question. Combien de vous, vous croyez vraiment que Jésus-Christ est vivant? Il est à la droite du Père, mais il a envoyé son Saint-Esprit ici sur la terre. Et le Saint-Esprit, il peut nous parler aujourd'hui, il peut nous révéler les choses, il peut nous enseigner, nous guider dans toute la vérité. Donc aujourd'hui... Je veux vraiment, si vous êtes venu entendre un sermon du pasteur Ken, ça c'est une erreur. Mais si vous êtes venu pour entendre de Dieu ce matin et par son esprit de recevoir les choses dont vous avez besoin, voilà, vous allez être content ce matin. Amen. Parce que je crois que Dieu peut parler à travers son peuple, bien entendu. Mais il ne faut pas oublier que c'est le Saint-Esprit qui est notre guide. C'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant. Et le Saint-Esprit a inspiré cette Bible. Et le Saint-Esprit m'a envoyé, bien entendu, comme pasteur pour prêcher et enseigner la Bible. Mais c'est lui qui va faire les dépôts spirituels dans notre cœur ce matin. Amen. Donc on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours et à jamais transformé et changé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, nous allons terminer une série que nous avons commencée il y a déjà 4 semaines. En fait, il y a 5 semaines, parce que le premier dimanche du 2008, j'ai amené un message que j'avais dans mon cœur en disant que nous croyons, et je crois fermement, que l'année 2008 est supposée d'être quoi? Une année de paix et de prospérité. Et on a parlé de cela, que même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu originalement, on voit que le mot paix, shalom, tout le monde dit shalom, le mot shalom veut dire littéralement paix ou prospérité. Ça veut dire rien de brisé et rien qui manque. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que 2008 soit une année de paix et de prospérité, c'est-à-dire une année où rien soit brisé et que rien manque dans votre vie. Et ça, c'est une chose que nous sommes en train de voir depuis quelques semaines. On parle de la prospérité selon Dieu. On parle de comment découvrir les clés de la prospérité. Et notre texte, en fait, se trouve en 3 Jean, chapitre 1, verset 2. En fait, c'est juste un chapitre dans 3 Jean. Mais, et ça dit ceci. Et c'est ici sur le PowerPoint, c'est dans vos notes ou regardez dans votre Bible. 3 Jean 1, 2 dit, bien-aimés, je suis, quoi, que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc ici, on voit, c'est une parole inspirée de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de nous dire que Dieu veut que nous soyons prospères et que nous soyons en bonne santé. Et je ne sais pas ce qui vous concerne, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. Combien de vous êtes contents que Dieu ne veut pas qu'on soit dans la misère? Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Dieu veut qu'on soit prospère et qu'on soit en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Et on a parlé de cela depuis quelques semaines, de la vraie prospérité. On a parlé du fait que pour prospérer à tous égards, premièrement, il faut prospérer dans son âme. C'est-à-dire qu'il faut avoir les bonnes pensées. Il faut penser comme Dieu pense. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, ses voix sont au-dessus de nos voix, mais si nous recevons et nous adaptons ses pensées et ses voix, nous allons vivre les résultats que Dieu veut qu'on vive. Et Dieu veut que vous soyez prospères. C'est sa volonté, c'est son plan. Mais combien de vous, vous êtes d'accord que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont prospères aujourd'hui? Allô? Combien de vous, vraiment, vous voulez être prospères? Mais laisse-moi poser l'autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas être prospère? Levez la main. Ça vous tente pas? OK? Non, bon, je pense. Il n'y a personne qui ne veut pas prospérer. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec le but, dans le but qu'on soit prospère. Donc, c'est normal que nous désirons prospérer. C'est tout à fait normal parce que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous. Amen? Et on a vu plusieurs choses. On a vu l'importance de renouveler son intelligence et de ne plus avoir une mentalité de pauvreté, mais d'avoir une mentalité d'abondance et une mentalité de prospérité. D'arrêter de penser que je suis né pour un petit pain. Non, nous sommes nés de nouveau et nous sommes les enfants de Dieu qui est un Dieu d'abondance. Et même quand partout que Dieu va, il laisse dans ses traces les pas d'abondance, n'est-ce pas? On a vu toutes ces choses, que Dieu est un Dieu El Shaddai, c'est un Dieu de trop, un Dieu de plus qu'assez, notre coupe déborde. L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Il nous donne toutes choses avec abondance pour qu'on puisse en jouir. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Père. Dieu est un Dieu d'abondance. Et nous vivons dans un royaume, si vous voulez. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'abondance. La famille de Dieu, c'est une famille royale, c'est une famille d'abondance. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on soit prospère? Pourquoi est-ce que Dieu veut nous bénir? Aujourd'hui, on va parler de ça. Et si vous voulez, on va voir comment devenir une source de bénédiction. Ou un autre titre pour le message aujourd'hui pourrait être « Béni pour bénir ». Tout le monde dit « Béni pour bénir ». Ça vous intéresse d'être béni pour bénir les autres? Regardons Genèse chapitre 12 et verset 1. Une parole que Dieu a donnée à Abraham et le père de tous ceux qui croient, la Bible dit. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. » Et tu seras quoi? On va le dire encore, une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc là, on voit que Dieu a choisi Abraham pour faire sa volonté. Abraham a cru à la parole de Dieu, il a cru aux promesses de Dieu, et il lui fut imputé comme la justice. Mais la Bible, on voit ici que Dieu a promis de bénir Abraham et de faire de lui une source de bénédiction. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes une source de bénédiction aujourd'hui? Est-ce que les gens autour de vous ressentent et est-ce qu'ils sont en train d'expérimenter plus de vie, plus de bonheur, plus de joie et plus de toutes les bonnes choses qu'on pourrait imaginer parce que vous êtes là? Posez-vous la question. Parce qu'on a on a le choix. On peut dans la vie être une source de bénédiction pour les autres ou on peut être une siphonne. Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience d'être avec un siphonne qui prend toute ta vie, qui prend toute ta joie, qui essaie de prendre tout ce que tu as de bon, ils essaient de le siphonner? Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez être, un siphon ou une source de bénédiction? Moi, je veux être une source de bénédiction, et vous? Et ça, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour vous aussi. Il veut que vous soyez bénis. Une fois, j'ai fait une série à l'église, et j'ai donné comme titre, béni au bout. Hein? Dieu veut que vous soyez bénis au bout, jusqu'au bout. Il veut que vous soyez tellement bénis, que vous soyez tellement remplis de sa présence, sa joie, le fruit de l'esprit, tellement rempli de sa provision, même que ça soit dans tous les domaines, que ça déborde. Votre coupe va déborder et tous ceux qui sont autour de vous vont finir par être trempés et mouillés par les bénédictions de Dieu. Savez-vous que ça, c'est ce que Dieu veut pour nous? Alléluia! Regarde quelqu'un et dit, Dieu veut que tu sois béni pour bénir. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est ça que Dieu veut. Dieu est un Dieu d'abondance et Dieu veut partager cette abondance avec nous. Donc, si vous avez cette idée que, bon, vous allez passer votre vie juste avec le strict nécessaire et être dans la misère et et c'est pas qu'est-ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous soyez bénis pour bénir les autres. Regardons, il y a un texte qu'on a lu plusieurs fois pendant cette série. Et en passant, si vous n'étiez pas là pour les autres semaines, je vous invite à aller à www.lavicomblée.com et vous pouvez écouter tous les messages gratuitement sur l'Internet. Mais ici, en 2 Corinthiens 9, 6, nous voyons quelque chose que l'apôtre Paul a dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il a dit ceci. On parle d'être comment devenir une source de bénédiction. Rappelez-vous ceci. Celui qui sème peu récoltera quoi? Peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Dieu a le pouvoir de vous combler de quoi? De toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Comme Dieu déclare, il donne largement. Qu'est-ce que Dieu donne? Largement aux pauvres. Sa générosité dure pour toujours. Nous servons un Dieu qui n'est pas gratteux, mais qui est généreux. Amen. Bon, sa générosité dure pour toujours. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche. Souligne le mot riche ici. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps, pour que vous puissiez sans cesse, soulignez le mot sans cesse, vous montrer généreux. Ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous le transmettrons de votre part. Ici, nous voyons quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va vraiment contredire d'une façon flagrante beaucoup de choses qu'on entend la plupart des fois dans les églises ou par la religion. Combien de fois est-ce que nous allons entendre dans le contexte d'une église, et là je vais dire quelque chose, préparez-vous, ok? Que Dieu veut que vous soyez, et là je vais dire le mot, ça commence avec un R, Dieu veut que vous soyez riche. Et tout de suite je vois, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais ce n'est pas moi qui l'a dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que vous êtes d'accord que nous lisons la Bible? Amen. Qu'est-ce qu'on a dit au début de la réunion? Voici ma Bible, je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Et ici, la Bible dit que Dieu vous rendra suffisamment riche. Je vais le dire, on va le dire encore. Dieu vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Ainsi, beaucoup remercions Dieu pour les dons que nous le transmettons de votre part. Donc, on voit que Dieu veut vous rendre riche. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous montrer sans cesse généreux. Dieu veut vous bénir afin que vous puissiez bénir les autres. Dieu veut vous bénir afin que vous deveniez une source de bénédiction. Donc ici, c'est clair, il y a des personnes qui vont dire, mais là, Dieu veut qu'on soit riche, mais il veut dire spirituellement. Oui, spirituellement, Dieu va vous rendre riche, mais est-ce que c'est juste spirituellement? Vous savez que quand on sort un texte de la Bible de son contexte, on peut faire un prétexte, n'est-ce pas? Mais si on veut vraiment interpréter la Bible comme il faut lire le verset dans le contexte. C'est quoi le contexte de ce verset qui dit qu'il vous rendra suffisamment riche? Le contexte, c'est l'apôtre Paul qui parle à une église à Corinthe et il demande à ce peuple de préparer une offrande généreuse qui est destinée a été envoyé à Jérusalem pour aider les pauvres, parce qu'il y avait une famine à l'époque, et cette famine était assez grave, et même des chrétiens en Jérusalem étaient dans une position où c'était difficile, et Dieu voulait se servir d'autres membres du corps de Christ pour aider ces personnes, pour prendre soin, pour rencontrer les besoins des chrétiens à Jérusalem. Donc ça, c'est le contexte. Le contexte ici, il parle d'une offrande financière, il parle de l'argent. Donc quand Paul dit, ou le Saint-Esprit dit à travers Paul, que Dieu vous rendra suffisamment riche, il parle pas juste d'une richesse spirituelle. Il est en train de dire que Dieu est capable de vous bénir financièrement et vous serez capable de sans cesse vous montrer généreux. Combien de vous, franchement, vous aimeriez avoir les moyens d'être capable d'être sans cesse généreux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas ça? Stella. Non, non, non. Non, c'est parce que sa main, elle a pas baissé sa main à temps, c'est ça. Non, mais regardons, je sais que c'est pas souvent que je fais des messages sur ce sujet, hein. Et surtout, hein, si vous êtes visiteur, sachez, hein, c'est quelque chose d'important parce que on voit, et qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que Dieu s'intéresse à toute notre vie, il s'intéresse à notre cœur. Jésus dit en Matthieu 6, 21, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Dieu s'intéresse à notre cœur. Dieu veut se servir de nous pour bénir les gens sur tous les plans, financièrement, physiquement, émotionnellement, mais aussi des fois financièrement aussi, n'est-ce pas? Combien de vous avez besoin d'argent pour quand vous allez à l'épicerie pour acheter la nourriture? Est-ce qu'ils vous demandent? Mais toi, tu es chef caissier, n'est-ce pas? Oh, assistant gérant, maintenant, IGA. Oh, une promotion, gloire à Dieu. Dieu est en train de la faire prospérer. Mais est-ce que les caissières à IGA, est-ce qu'ils demandent de l'argent quand les gens veulent sortir avec la nourriture? Ouais. Tout le temps? Ouais. Toujours. Sans exception. Je sais pas pourquoi, mais ils font ça, hein? J'ai eu la même expérience à Maxi et partout. Ils demandent de l'argent quand on veut acheter de la nourriture, ils demandent ça. Donc, dans ce système de monde, on a besoin d'argent pour vivre, et Dieu est capable de prendre soin de nous et de pourvoir l'argent dont nous avons besoin. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Jésus a dit clairement à Matthieu 6, il a dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il faut jamais courir après l'argent, il faut jamais courir après les choses de ce monde ou les richesses de ce monde. La Bible est claire là-dessus. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de l'amour de l'argent. Toutes ces choses, c'est excessivement dangereux. Si on commence à aimer les choses plus qu'on aime Dieu, on est dans le trouble. Vous êtes d'accord? Mais Jésus a dit, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus dit toujours la vérité? Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses. Quelles choses? La nourriture, les vêtements, un abri, toutes ces choses sont données par-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce verset? C'est que Dieu est capable de nous donner assez pour satisfaire tous nos besoins avec un superflu pour participer à toute bonne œuvre. J'aurai pas juste assez pour payer les factures, mais j'aurai un superflu pour aider les autres aussi. Amen. Donc c'est ça que Dieu veut. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour chacun de nous. Et si vous êtes capable de ne pas tomber dans le piège de l'amour de l'argent, vous serez en mesure de devenir cette source de bénédiction. Mais si, par exemple, votre cœur n'est pas droit avec le Seigneur, il se peut que ça serait mieux pour vous d'avoir juste assez. Pas avoir des manquements, mais juste assez. Parce que si votre cœur n'est pas droit, si le Seigneur commence à vous donner plus, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez le gaspiller juste sur vos propres passions et vous allez peut-être tomber dans le piège de l'amour de l'argent. Et on veut parler de ça aujourd'hui. On veut parler de comment devenir une source de bénédiction. Et il y a trois choses que j'ai vraiment sur mon cœur qu'on va partager. Trois choses qu'il faut faire pour devenir une source de bénédiction. Est-ce que ça vous intéresse? Bon, vous savez, des fois, il y a des personnes qui ont de la difficulté à donner. Juste l'idée d'être généreux, pour eux, c'est pénible. On mentionne donner aux autres et c'est pénible. Mais laisse-moi vous dire, je vais vous donner le truc, le secret, pour que ça devienne facile de donner à chaque fois que Dieu vous demande à donner. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi le secret? OK? Tout ce que tu as besoin de faire, c'est une fois dans ta vie, tu fais ceci. Première chose, donner tout une fois pour toutes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Savez-vous que qu'est-ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas. Si on va vraiment être une source de bénédiction, il faut changer notre façon de voir la vie. Il faut arrêter de penser que moi, je suis le maître de ma propre destinée et moi, je suis le maître de mes biens et je suis le maître ou le propriétaire de mon argent, mes finances et tout. Non, il faut, comme on a vu les personnes qui ont été baptisées aujourd'hui, ils ont déclaré publiquement qu'ils étaient crucifiés avec Jésus-Christ et que c'est Christ qui vit en eux. Il faut qu'on reconnaisse une fois pour toutes que Jésus est le Seigneur de notre vie. Amen. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de faire juste une offrande. Une offrande. Quelle offrande est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de faire l'offrande de notre vie. Tout ce que nous sommes, tout ce que j'ai aujourd'hui et tout ce que je vais jamais avoir dans le futur, Seigneur Jésus, je te le donne. Et c'est fini. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Faites une offrande, une fois dans votre vie. Et l'offrande que vous faites, c'est tout. Seigneur, ma vie, mon cœur, mon âme, mon esprit, ma famille, mes enfants, ma femme, tout mon argent, tous mes biens, tous mes rêves, toutes mes aspirations, tous mes plans, mes projets, je te donne tout. Et savez-vous quoi? Quand on fait ça, la Bible dit donnez et il vous sera donné. Bonne mesure, serré, secoué et qui déborde. Vous savez, il est impossible de donner sa vie à Jésus et finir dans la disette. Il est impossible de donner tes plans et tes projets à Dieu et finir dans la frustration ou la déception. Impossible. Jésus a dit clairement, si quelqu'un veut sauver sa vie, il va la perdre. Mais si quelqu'un perd sa vie pour moi et pour l'Évangile, il va la retrouver. Souvent, on veut tellement garder nos choses, on veut garder notre temps, on veut pour soi-même, on veut garder les trésors, le temps, le talent, les trésors et même notre temps, notre corps. Tout est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Regardons ceci. Ça, c'est vraiment la clé. Si vous voulez vraiment être une source de bénédiction, il faut faire ceci. Il faut donner ton cœur à Jésus. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, il faut lui donner ça une fois pour toutes. Oui. 1 Corinthiens 6, 19. Regardons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous ne vous appartenez point à vous-même. vous-même. Vous ne vous appartenez pas. Regarde, quelqu'un a dit, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Pourquoi? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est quoi le prix? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi? Le sang de Jésus. Nous n'avons pas été achetés avec de l'or ou de l'argent ou avec une carte de crédit. Nous étions achetés avec le sang précieux de Jésus-Christ. Jésus a versé son sang pour vous acheter. Pas juste pour vous sauver, mais pour vous acheter. Et si vous voulez vraiment être un chrétien, il faut avouer, il faut admettre, il faut accepter que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ma vie n'est plus à moi. C'est à lui, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas? Voici la chose. Quelques-uns de vous, quand j'ai dit cela, vous avez eu des sentiments négatifs. Ma vie n'est plus à moi-même. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus sait mieux gérer ta vie que tu sais gérer ta vie? Est-ce que tu es d'accord que Jésus est pas mal plus intelligent que nous? Est-ce que tu es d'accord que Jésus sait qu'est-ce qui va vraiment nous faire plaisir dans la vie? Donc, c'est une question de confiance. Est-ce que vous avez confiance dans votre propriétaire? Si vous n'avez pas confiance dans votre propriétaire, vous allez avoir de la misère. Mais regardons, quand vous avez été racheté en grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre cœur et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Savez-vous que tout appartient à Dieu, dans le fond? Regardons ceci, il y a un verset en psaume 52. Dieu dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tous ceux qui le renferment. Le monde est à qui? C'est à lui. Tout ce que le monde renferme est à qui? À Dieu. Tout. Et c'est-à-dire que tout ce que j'ai, c'est vraiment pas correct si j'ai l'impression ou l'idée que je suis le propriétaire de quelque chose. Je ne suis pas le propriétaire de rien. Dieu est le propriétaire de tout. Je suis tout simplement qu'est-ce que la Bible appelle un intendant ou un administrateur ou un gérant de qu'est-ce qui appartient à Dieu. Encore, ce matin, on parle spécifiquement de vos finances, par exemple. Mais ça parle de tout dans la Bible. La Bible dit comme des dispensateurs de diverses grâces de Dieu que chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu. Vous savez que même les dons spirituels, moi, j'ai pas une onction, c'est pas mon onction, c'est pas mon appel dans ce sens-là, c'est pas mon ministère, c'est son ministère, son appel et son onction. Et je ne suis que le gérant et l'administrateur. Les enfants que le Seigneur vous a bénis avec les enfants, ce ne sont pas vos enfants. Vous êtes d'accord? Vous êtes la personne responsable pour prendre soin des enfants pour Dieu. Amen. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. N'est-ce pas merveilleux? De savoir que Dieu est le propriétaire de tout. Amen. Romains 8, 17 dit quelque chose. Mais voici l'équilibre. Voici l'autre côté de cette histoire. Dieu veut qu'on vive, si on va être une source de bénédiction, comme un économe ou un administrateur ou un intendant. OK? Pas comme propriétaire, mais comme intendant. En anglais, le mot, c'est « steward ». C'est quelqu'un qui prend soin des biens d'une autre personne, pour la personne. Comme Joseph était un intendant dans la maison de Potiphar. Potiphar, c'était un homme riche en Égypte. Et Joseph était un esclave, son serviteur, mais Potiphar avait tellement confiance en Joseph qu'il a remis entre ses mains tous ses biens, tout son argent, tout ce qui appartenait à Potiphar. C'est Joseph qui gérait les choses pour lui. Amen. Et c'est ça que Dieu veut qu'on sache, que Dieu, il veut que nous soyons capables de gérer ses ressources pour lui. Nous ne sommes pas les propriétaires, mais nous sommes les intendants, les administrateurs ou les gérants, si vous voulez. Mais voici l'autre côté, Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et quoi? Co-héritiers de Christ. si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça, c'est la beauté de ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Dans une alliance, qu'est-ce que nous faisons? Moi, j'ai fait une alliance avec mon épouse. Hein? On a échangé les alliances. Et quand je me suis marié avec elle le 15 juin 1985, oh, oui. Le 15 juin 1985, c'est ça. Moi, je n'ai jamais oublié, c'est juste que des fois, le 85 en français, pour moi, c'est, hein, c'est ça. Non, mais pour vrai. Non, pas un joke. Hein? J'oublierai jamais cette journée. C'était la plus belle journée de ma vie, à part la journée que j'étais sauvé. Mais vous savez que cette journée-là, j'ai fait une alliance avec mon épouse et on a échangé les vœux. Et en réalité, j'ai dit à mon épouse que tout ce que je suis et tout ce que j'ai, c'est à toi. Nous devenons une seule chair à partir d'aujourd'hui. Et en retour, Tania m'a dit, tout ce que je suis et tout ce que j'ai, c'est à toi. Vous savez quoi? Nous n'avons pas, moi j'ai pas mes affaires, elle n'a pas ses affaires, nous avons nos affaires. OK? Mais écoute, si vous avez des comptes séparés, etc., ça c'est votre business et des fois c'est correct, mais dans mon esprit, pour moi, c'est ça, nous avons un compte conjoint. Mon argent, c'est son argent. Son argent, c'est mon argent. N'est-ce pas? Hein? Mon auto, c'est son auto. Son auto, c'est mon auto. Et tout. Moi, il n'y a rien qu'elle ne peut pas avoir. Si c'est à moi, c'est à elle. Il y a des choses qu'elle ne veut pas, par exemple. Je pense pas. Moi, je ne veux pas porter ta jupe, par exemple. Ça ne me tente pas. Mais si je voudrais... Elle dirait pas non, non, non. Non, peut-être elle va dire pas en public, non. Même pas en privé non plus. Est-ce que c'est juste pour souligner un point ici? Toutes nos choses sont en commun. Nous avons un conjoint. Et savez-vous quoi? Voici la beauté. Quand vous donnez tout à Dieu une fois pour toutes, ça c'est en réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a donné tout, une fois pour toutes aussi. Quand Jésus a donné sa vie à la croix, son sang a été versé. Quand il a dit, il est fini. Le moment que le sacrifice était accompli, le moment que l'œuvre rédemptrice de Jésus fut accomplie et achevée, en réalité, Jésus était en train de donner à la race humaine, une fois pour toutes, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, il a offert à nous. Et c'est pourquoi la Bible dit, comment celui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Moi, j'ai toutes choses. Jésus est héritier de toutes choses. Est-ce que vous êtes d'accord que tout appartient à Jésus? Mais la Bible dit que je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus. Toutes choses sont à moi aussi. Donc, je veux que vous sachiez, des fois, les personnes deviennent nerveuses quand on parle de devenir un intendant ou de donner ou être une source de bénédiction. Pourquoi? C'est la peur, c'est la crainte, parce qu'ils ont peur que, ou Dieu veut enlever tout ce que j'ai, il veut que j'ai rien et je vais être dans la misère, je vais avoir une vie misérable. Au contraire, mon frère! C'est le contraire. Dieu veut que vous soyez bénis afin que vous soyez une source de bénédiction. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut accès total à votre cœur. Il veut accès total à vos biens. Il veut accès total à tout ce que tu es et tout ce que tu as. Et tu sais quoi? Qu'est-ce que nous avons en retour? Nous avons accès total à tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. C'est, on parle des fonds mutuels, on ne peut pas avoir une meilleure affaire que les fonds mutuels de Dieu. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Mais ça marche pas. Moi, je ne peux pas avoir accès total à ses biens si je lui donne pas accès total à mes biens. Est-ce que vous êtes là? Je vais le dire encore. Je ne peux pas avoir accès total, libre accès, à ses biens si Dieu n'a pas accès total à mes biens. Si j'ai fermé les choses de mon cœur, si je dis au Seigneur, tu peux avoir tout sauf, là je garde ça pour moi, ça, c'est dangereux. J'ai partagé ça hier avec les étudiants à l'école biblique. Et l'autre jour, j'ai un voisin à côté de moi qui, sa maison est à vendre depuis, plusieurs mois. Et l'autre jour, je suis parti de la maison et j'ai vu qu'il y a une annonce. C'est marqué en gros lettres rouges. Devinez qu'est-ce qui est marqué? Hein? Hein? Vendu! Et savez-vous quoi? Quand j'ai vu ça, il y a quelque chose. Je me suis dit, je pense que nous, en tant que chrétiens, nous avons tous besoin d'afficher sur notre cœur, grande affiche, vendu! C'est qui l'acheteur? Jésus! Le monsieur, maintenant, il a un contrat. Le contrat est signé. Il y a quelqu'un d'autre qui est tombé propriétaire de sa maison, mais il reste toujours dans la maison. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est que maintenant que le contrat est signé, il y a déjà un autre propriétaire et un autre acheteur qui a déjà signé le contrat. Le monsieur qui habite dans la maison n'a plus le droit de montrer sa maison aux autres acheteurs. Vous êtes d'accord? Il n'a pas le droit de ouvrir sa maison et de faire visiter sa maison à d'autres personnes qui aimeraient acheter la maison. Ça serait, est-ce que vous êtes d'accord que ça ne serait pas correct? Le gars a déjà vendu la maison une fois, on ne le vend pas deux fois. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment vendu votre cœur à Jésus? Et si votre cœur est vraiment vendu à Jésus, vous n'avez plus le droit de montrer votre cœur à d'autres acheteurs qui veulent acheter les affections de votre cœur. Vous n'avez plus le droit. Vous êtes réservé maintenant. Le contrat est signé en sang, littéralement. Vous êtes vendu. Amen? Pose la question à la personne à l'autre côté. Est-ce que tu es vendu? Ça, c'est la chose la plus importante. Vendu. Donc, ça va de pair avec est-ce qu'on est donné tout une fois pour toutes. C'est quoi la deuxième chose qu'on a besoin de faire si on veut devenir une source de bénédiction? C'est montrez-vous digne de confiance. Montrez-vous digne de confiance. Maintenant, si c'est réglé que tout ce que tu as présentement et tout ce que tu vas recevoir dans le futur, tu as déjà réglé la chose, c'est vendu, tu es juste un gérant, tu n'es pas propriétaire. C'est-à-dire que si le propriétaire demande, j'aimerais que tu fasses telle, telle chose avec tel, tel bien, tu dis, oui, chef, c'est à toi de toute façon. N'est-ce pas? Maintenant, si vraiment tu veux devenir une source de bénédiction et tu veux que le Seigneur se sert de vous pour bénir les autres, il va falloir que vous vous montriez digne de confiance. Il y avait Jésus qui parlait en Luc chapitre 16, verset 1, parlait à ses disciples. Il disait, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe. Un économe, c'est quoi? Un intendant, un gérant ou un administrateur, comme nous le sommes pour Jésus, n'est-ce pas? Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Est-ce que tu peux imaginer, encore, tu as un intendant qui prend soin de les biens d'une autre personne, mais la personne gaspille l'argent. Ça serait comme une personne qui travaille à la caisse d'une banque, et des milliers de dollars qui passent à travers ses mains. Il faut que cette personne soit digne de confiance, vous êtes d'accord? Parce que c'est pas son argent. C'est pas son argent, l'argent appartient à la banque, et dans le fond, ça appartient à tous ceux qui l'ont mis dans la banque, n'est-ce pas? Regardons qu'est-ce que Jésus dit à propos de cet homme riche. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte! » Savez-vous que vous allez avoir un compte à rendre à Dieu un jour? « Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer quoi? Mes biens. » Je vous propose que ça serait une bonne idée pour chacun de nous de s'examiner soi-même et de dire, Seigneur, si tout ce que j'ai t'appartient, est-ce que je suis en train de faire un bel job d'administrer tes biens pour toi? Parce que Dieu, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de miséricorde, mais il n'est pas stupide non plus. Et si Dieu a un job à faire sur la terre, s'il y a quelque chose qu'il veut accomplir, à qui est-ce qu'il va confier ses tâches? À qui est-ce qu'il va confier les missions les plus importantes? Il va confier ces choses aux gens qui sont dignes de confiance. Vous êtes d'accord? Donc, posez-vous la question. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance avec ses missions? Est-ce qu'il peut vous faire confiance avec ses dons? Est-ce qu'il peut vous faire confiance avec les ministères divins? Est-ce qu'il peut vous faire confiance avec les choses les plus importantes qui, dans le fond, va déterminer le salut des âmes partout dans le monde? Est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Bonne question, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 4, 2 dit ceci. En fin du compte, que demande-t-on à des intendants, n'est-ce pas, d'accomplir fidèlement la tâche qui leur a été assignée et de se montrer digne par leur gérance honnête et désintéressée. Soulignez cette phrase, gérance honnête et désintéressée. Qu'est-ce que Dieu veut, si vous voulez être vraiment prospère, Dieu veut que vous vous affichiez vendu et qu'à partir du moment que vous êtes vendu, à chaque fois que vous recevez quelque chose de Dieu, vous gérez cette affaire avec honnêteté et d'une façon désintéressée, pas d'une façon égocentrique, est-ce qu'on peut dire, mais d'une façon désintéressée. Je cherche le bien du royaume, je cherche le bien de mon entourage, je veux faire du bien avec les biens que Dieu m'a confiés. Bon, par leur gérance honnête et désintéressée de la confiance dont ils sont l'objet. Okay? Donc voilà qu'est-ce que Dieu veut. Un économe, un intendant, un administrateur doit être trouvé fidèle. Tout le monde est fidèle. Proverbe 28, 20 dit ceci. Un homme fidèle est quoi? Comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Donc voilà une bonne nouvelle. Soyez fidèles et Dieu va vous bénir. Et Dieu va vous bénir avec ses biens. Il va vous confier davantage et davantage de ses biens pour que vous puissiez les gérer avec honnêteté et d'une façon désintéressée. Et s'il trouve que vous êtes digne de confiance, il va vous confier davantage. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que vous aimez les paroles de Jésus? Luc 16, 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Qu'est-ce que Jésus dit? Faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle, tout le monde dit fidèle, dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Trop des gens disent, mais écoute, un jour je vais bénir les autres, si jamais je gagne le loto, je vais commencer à bénir les autres. J'y crois pas. Si vous avez un peu et vous n'êtes pas prêt à obéir à Dieu et bénir quelqu'un avec un peu, c'est fou de croire que Dieu va vous confier beaucoup afin que vous puissiez bénir quelqu'un avec beaucoup. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Vous aimez sa parole? Si celui qui est fidèle est dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est que Jésus utilise votre gestion de vos finances comme un test. Il veut voir si vous êtes digne de confiance. Est-ce que je peux confier à cette personne un ministère, une mission, un projet? Est-ce que je peux confier à cette personne les dons de l'esprit? Est-ce que je peux confier à cette personne les véritables richesses? Je vais voir comment est-ce qu'il agit avec les richesses injustes. Qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Est-ce qu'il est fidèle dans les dîmes? Est-ce qu'il est fidèle dans les offrandes? Quand je lui demande à faire quelque chose avec un 5 $, est-ce qu'il le fait? Ou est-ce qu'il dit non, je vais le garder pour moi-même? Parce que qu'est-ce personne qui le garde pour soi-même? Comment est-ce qu'il va faire avec un ministère? Quand le Seigneur lui donne une parole de connaissance, un don de l'esprit ou une prophétie, la personne dit, oh, mais non, dans le fond, j'aime mieux le garder pour moi-même. Vous voyez, c'est Jésus qui parle et c'est des choses importantes que nous avons besoin de saisir. Alléluia. Dieu s'intéresse à notre cœur et Dieu veut que nous soyons libérés une fois pour toutes de l'amour de l'argent. Il ne veut plus qu'on soit attaché au bien. Il veut que nous soyons vendus pour que tout ce qu'il nous donne, on est capable de le redonner dès qu'il nous demande de le faire. Amen. Alléluia. Regardons. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, et qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et voici qu'est-ce que Jésus dit. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est quoi? C'est l'argent. Il est impossible de servir Dieu et servir l'argent en même temps. Donc, la deuxième chose, troisième chose, on va terminer avec ceci. C'est quoi la première chose? Donner tout une fois pour toutes. Vendu! Tout le monde dit, je suis vendu. C'est quoi la deuxième chose? Montrez-vous digne de confiance. C'est-à-dire que soyez fidèle dans les petites choses. Quand Dieu te demande à faire quelque chose avec peu, fais-le, et il va vous confier plus. Mais finalement, soyez en vaisseau et non pas en seau. Soyez en vaisseau et non pas en seau. Vous savez de la différence entre un vaisseau et un seau? Ou on peut dire, soyez en boyau et non pas en seau. Il y a une grande différence entre un boyau et un seau, n'est-ce pas? Un boyau est utilisé pour faire quoi? Pour arroser, pour distribuer. Et un seau est utilisé pour collectionner, ramasser, contenir. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu veut pour vous, pour moi? Dieu veut qu'on soit une source de bénédiction. Il veut qu'on soit des boyaux et pas des seaux. Moi, j'ai appris ça. Il faut avouer, c'est pas moi qui ai inventé cela. Mais en fait, c'est ma chère maman qui a partagé cette vérité avec moi quand j'étais très, très, très jeune. Je pense 10, 11 ans, je m'en souviens plus, mais ma mère souvent elle disait, il faut qu'on soit, mais elle disait en anglais bien entendu, we need to be funnels and not buckets. Il faut qu'on soit encore des boyaux et non pas des seaux. Donc là, j'ai grandi avec ce concept que nous sommes, et je m'en souviens, elle faisait attention de m'enseigner cela. On a passé des moments très difficiles. Financièrement, c'était très serré chez nous, surtout après le divorce de mes parents. Ma mère s'est trouvée seule avec deux garçons et avait besoin de prendre soin de tout. Mais je m'en souviens, on avait une vieille bazou qui fonctionnait plus. Et un jour, le Seigneur a béni notre famille et ma mère arrive avec, pas une auto flambant neuve, mais neuve pour nous. Amen. Mais c'est une belle auto blanche, un Chevrolet, un Impala. Je pense que c'était en 76 ou quelque chose comme ça, 77. Mais je m'en souviens, ma mère était tellement contente. Mais la première chose que ma mère m'a dit, elle a montré cette auto à moi et à mon grand frère, et on était contents de ne plus avoir besoin d'être dans la bazou. OK? Mais la première chose que maman a dit, ça appartient à Jésus. C'est son auto. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec? C'est ça qu'on va faire. J'ai grandi comme ça. Heureusement, j'ai eu cet héritage de une mère qui aimait Jésus et qui m'a enseigné que nous sommes des boyaux et pas des seaux. Et quand nous recevons de quoi, il faut toujours être prêt à le redonner à quelqu'un. Il faut toujours à tout moment être prêt à tout donner pour Jésus. Dans le fond, tout est déjà donné. Une fois, on fait cette offrande de toute notre vie, vendue. Amen. Alléluia. Soyez un boyau et non pas un seau. Mais regarde bien. Proverbe 11, 24. Voici la bonne nouvelle. Tel qui donne libéralement devienne quoi? Plus riche. Encore, la Bible n'est pas contre les richesses. Mais la Bible dit que les riches doivent faire attention de ne pas être orgueilleux, de ne pas être égoïste et de ne pas oublier Dieu. Le problème, c'est que quand les personnes commencent à prospérer, ils oublient Dieu. Ils s'attachent au bien au lieu de s'attacher à celui qui donne les biens, n'est-ce pas? Et ça, c'est problématique, c'est sérieux et c'est grave. Mais tels qui donnent libéralement deviennent plus riches et tels qui épargnent à l'excès ne fait que s'appauvrir. Est-ce que Dieu est contre l'idée d'épargner? Non. Mais il est contre l'idée d'épargner à l'excès et pour les mauvaises raisons. C'est comme Jésus a donné la parabole du homme riche qui avait des biens, un homme riche dont ses champs ont donné une bonne récolte, et il a dit, bon, la grange est pas assez grande, donc je vais le détruire, je vais bâtir un plus grand, je vais ramasser pour moi-même toutes mes affaires, et mon âme va être en paix pour longtemps. Mais Jésus a dit, insensé, ne sais-tu pas que ta vie te sera demandée aujourd'hui, cette nuit. Si on se ramasse pour soi-même les choses d'une façon égoïste, c'est pas bon. Dieu n'est pas contre l'idée d'avoir un plan pour la retraite ou un rire ou les choses de même ou d'investir dans la bourse. C'est correct si le Seigneur vous dirige comme ça, mais le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est d'investir dans le royaume de Dieu. Amen. Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre tente une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voici la chose. Si vous êtes un sot, vous allez recevoir les bénédictions, les garder pour vous-même, et vous allez en profiter, et au moment donné, le sot va être quoi? Vide. Mais si vous êtes un boyau, et le boyau est attaché à la source, amen. C'est qui la source? Dieu. Si vous êtes un boyau attaché à la source, vous allez avoir un flot continuel de ces ressources. Amen. Vous serez capable d'arroser tout le monde autour de vous et en même temps, le boyau va finir par être mouillé. Est-ce que vous avez entendu? Le boyau ne reste pas sec. Vous n'allez pas sécher en donnant. Au contraire, vous allez rester continuellement mouillé avec les bénédictions de Dieu. Vous me suivez? C'est biblique, qu'est-ce que je dis? Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante ou l'âme généreuse sera quoi? Rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Woo! C'est le fun! Il faut apprendre à aimer. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et c'est ça, une clé de la prospérité. De devenir en semeur, de devenir quelqu'un qui, par style de vie, donne continuellement. Je reçois et je donne, je reçois et je donne, je reçois et je donne. Je donne et je reçois. Savez-vous que la Bible dit clairement, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Il y a une loi de semer et de récolter que Dieu a établie. On plante un pépin d'une pommier, qu'est-ce qu'on va avoir? Un arbre, mais quel genre d'arbre? Un oranger? Non, pommier. On récolte toujours la même chose qu'on sème. On récolte toujours plus qu'on sème. Et on récolte toujours dans une autre saison. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous commencez à mettre cette parole en pratique, attendez-vous pas demain matin à voir toutes les choses changer dans votre vie. Vous allez planter la semence et ça peut prendre des semaines, des mois ou même des années. Mais la clé, c'est de le faire régulièrement, c'est un style de vie. Je suis vendu, je suis un gérant digne de confiance et je suis un boyau et pas un sot. Amen. Alléluia. Philippiens 4, 15. Combien de vous avez déjà entendu Philippiens 4, 19? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous connaissez ce verset? N'est-ce pas bon de savoir que Dieu va pourvoir nos besoins? Mais ce verset, « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins », ce n'est pas pour tout le monde. C'est une promesse conditionnelle. C'est conditionnel. Paul, quand il a dit cela, « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse », il parlait spécifiquement à un groupe de personnes qui ont rencontré certains critères. Et voici qu'est-ce qui s'est passé. On va juste finir avec ce verset-là. Chapitre 4 de Philippiens, verset 15. « Vous savez bien, chers Philippiens, que dans les premiers temps de mon activité missionnaire, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église ne participait à mon entretien. Aucune ne s'est associée à moi en m'ouvrant en quoi? En compte de quoi? En compte de crédit et débit. » Je lis la Bible ici. Ça, c'est la parole vivante. Et Paul est en train de dire, il n'y a aucune église, sauf vous, Philippiens, qui ont ouvert un compte de débit et de crédit. Mais regarde qu'est-ce qu'il dit. Vous seuls y avez pensé. Vous seuls y avez pensé. Verset 16. Dès mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. Donc, qu'est-ce qu'il parlait? Il disait que, bon, quand il est parti en mission, il y avait juste une église qui a ouvert un compte de débit et crédit, c'est les Philippiens. Qu'est-ce qu'il parle? Il parle de quoi? Il parle des offrandes que les Philippiens ont fait à son ministère missionnaire. Amen? Donc, à deux reprises, tu m'as envoyé de quoi subvenir à mes besoins. Verset 17. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, ce sont les fruits que, de cette manière, vous offrez à Dieu et qui sont portés à votre actif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous donnez une offrande missionnaire, c'est comme si vous avez, Dieu a fait un dépôt. On parle d'un compte de crédit et débit. Là, vous avez donné, mais Dieu a fait un dépôt. Il y a du crédit à porter à votre actif. Pour le moment, j'ai tout ce qu'il me faut et même du quoi? Superflu. Depuis que qu'Épaphrodite m'a remis vos dons, je suis comblé. Je vis dans l'abondance. Vos présents étaient pour moi le doux parfum d'une offrande agréable à Dieu. Donc, voyez-vous le contexte. Paul est en train de remercier ce groupe de chrétiens qui ont vécu leur vie comme un boyau et pinceau. Amen. Ils ont reçu les choses et ils ont donné les choses. Et je sais tout de suite, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je n'ai rien à donner. Ce n'est pas vrai. Vous avez tous quelque chose à donner. Quelque chose à donner. Et ce n'est pas le montant qui compte. Commencez petit, c'est nécessaire, mais commencez. On a déjà parlé d'on aurait dû avec la dîme, ça c'est une chose. Mais là, on parle de donner les offrandes, de semer les semences. Et laisse-moi vous dire que si vous commencez à mettre cette loi de semer et de récolter en pratique, c'est comme un compte de crédit et de débit. Vous faites des transactions sur la terre, mais qui sont comptées au ciel. Amen. Et Dieu s'en souvient de vos dons. Dieu se souvient de vos actes d'obéissance. Et Dieu peut faire des dépôts importants dans votre compte si vous êtes obéissant. Mais ça ne va pas commencer normalement avec des gros montants. Normalement, ça commence très petit. Normalement, ça commence avec des offrandes de 5 $ ou moins. Et si on est fidèle avec ça, Dieu va nous bénir avec. On donne 5 et il nous donne en retour une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Peut-être on va recevoir un 10. Ou peut-être on va recevoir une augmentation de salaire. Ou peut-être Dieu va vous donner une idée de comment sauver d'argent sur votre épicerie. Il y a toutes sortes de façons que Dieu peut fructifier et multiplier vos revenus pour que vous puissiez avoir plus de semences pour la prochaine fois. Vous commencez avec un 5. La prochaine fois, ça peut être un 10. Et puis, ça peut être un 100. Ça peut aller jusqu'à l'infini. Parce qu'on ne peut pas donner plus que Dieu peut nous redonner. Amen. Mais soyez fidèles dans les petites choses. Sachez que ce compte de crédit et débit, c'est une chose vraie. Et qu'est-ce que il faut souligner? Verset 19. D'ailleurs, mon Dieu subviendra pleinement, si on dit pleinement, à tous vos besoins, selon sa richesse glorieuse manifestée en Jésus-Christ. À qui est-ce que cette promesse est adressée? À ceux qui donnent pour l'œuvre de Dieu. Si vous avez ouvert ce compte de crédit et débit et vous êtes un boyau, vous gérez bien les biens de Dieu, et votre cœur est vendu à Jésus, là et seulement là, est-ce qu'on peut réclamer cette promesse? Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai, de toute façon, ça lui appartient. Je suis vendu et je suis fidèle dans les petites choses. Je suis fidèle à gérer avec honnêteté et avec d'une façon désintéressée. Et je suis un boyau qui arrose à chaque occasion que j'ai d'arroser. J'arrose les autres autour de moi et je suis moi-même arrosé parce que je donne et il m'est donné une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Amen. On va se lever debout ce matin. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Je pourrais dire tellement de plus. Bon, je viens de faire 12 heures d'enseignement sur le sujet juste hier et vendredi. Et avec 12 heures, je n'avais pas terminé toutes mes notes. La Bible en parle beaucoup, beaucoup de ce sujet. Ce n'est pas moi qui invente les choses. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que vous soyez prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu s'intéresse à ton cœur. Dieu s'intéresse à ce que tu sois en bonne santé, spirituellement, émotionnellement, physiquement. Dieu s'intéresse à son Église. Dieu veut qu'on soit une Église qui est tellement remplie d'amour pour Jésus, remplie d'amour les uns pour les autres et remplie d'amour pour le monde perdu. Il veut qu'on soit prospère afin qu'on soit dans une position de bénir les autres autour de nous. Encore une fois, je ressens dans mon esprit le besoin de le dire. Faites pas l'erreur de penser que parce que vous ne pouvez pas commencer grand, que votre contribution à l'œuvre de Dieu n'est pas importante. La veuve a donné 2 petites pièces de monnaie et Jésus a dit que cette femme a donné plus que tous les autres parce qu'elle a donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre, tandis que les autres riches qui ont donné beaucoup, eux autres, ils ont donné de leur superflu. Donc, faites pas l'erreur de penser que oh, ce message, c'est pour quelqu'un d'autre. Pas pour moi, parce que moi, j'ai presque rien. Si vous avez presque rien aujourd'hui, ce message est surtout pour vous. Parce que Dieu veut changer la situation. Parce que Dieu veut vous aider à sortir de ces limitations que vous avez placées sur vous-même par vos pensées. Souvent, on pense que oh, ça ne marcherait pas pour moi. Je suis venu et je suis né pour un petit pain. Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes venu au royaume de Dieu et vous êtes né de nouveau. Et Dieu, tout puissant, El Shaddai, le Dieu de plus qu'assez, il est ton Père. Et celui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Mais premièrement, aujourd'hui, j'aimerais inviter tout le monde à réfléchir et posez-vous la question, est-ce que vous avez vendu votre cœur à Jésus? Il a déjà payé pour. Mais est-ce que vous avez affiché vendu sur la porte de votre cœur? Sinon, on va prendre une décision de le faire aujourd'hui. Et en fait, une chose que j'aime faire le dimanche matin, et à tous les dimanches je le fais, je donne l'occasion, si jamais par chance il y a une personne, un homme, une femme ici présente qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Honnêtement, si, en quittant la baptiste aujourd'hui, si votre cœur arrête de battre et vous tombez mort, vous n'êtes pas certain à 100% que vous allez passer l'éternité au ciel. J'ai une bonne nouvelle. Jésus, il a déjà donné une fois pour toutes. Il a versé tout son sang. Il a offert à tout le monde la vie éternelle comme un don gratuit. Donc, si vous êtes là ce matin, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, mais vous voulez le faire. Jésus a dit ceci, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père qui est au ciel. » Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Donc moi, je vais juste donner cette occasion. S'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Jésus, tu veux être sûr et certain sans aucune doute que tu es sauvé de tes péchés. Je vais compter à 3. Je vais taper ma main. Lève ta main haut dans l'air si tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de donner son cœur à Jésus? 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vais juste t'inviter à venir ici avant. On va prier ensemble. Parce que Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant le pardon. Viens, on va prier ensemble. Viens, t'as. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Mais si on peut remercier le Seigneur pour lui. Aujourd'hui, tu veux que ton cœur soit vendu une fois pour toutes à Jésus, n'est-ce pas? Ton nom, c'est Alain. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de se rejoindre à Alain ce matin? Donner sa vie à Jésus. Quelqu'un? Encore, Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Peut-être tu dis, mais moi, je suis une bonne personne. Les bonnes personnes ne vont pas au ciel, seulement ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Oh, mais je lis ma Bible. ça ne peut pas te sauver non plus. Je vais à l'église, ça ne peut pas te sauver non plus. La seule chose, c'est de confesser avec ta bouche le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste lever la main. Donc, Alain, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi aujourd'hui. Tout le monde va prier ensemble. Mais en faisant cette prière, sache que le Seigneur Jésus va changer ton cœur. Le Saint-Esprit va rentrer en toi. Il va nettoyer tout ce qui est sale. Il va enlever le cœur de pierre et te donner un cœur de chair. Tu vas devenir une nouvelle création dans Jésus. Tous tes péchés vont être effacés. Tu vas pouvoir commencer une nouvelle vie à zéro avec Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu auras toujours les mêmes émotions et pensées parce que ça ne va pas changer tout de suite. Ça, c'est un processus. Plus on lit la Bible et on connaît Dieu, plus on commence à penser comme Dieu pense. Donc, ce n'est pas un feeling, ce n'est pas une émotion, mais par la foi aujourd'hui, tu vas recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et sache qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ton cœur. Okay? Donc, on va prier cette prière ensemble. Est-ce qu'on peut le faire avec Alain? À haute voix. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Et je confesse avec ma bouche que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que tu es mort pour moi, que tu es enterré et que tu es ressuscité. Je te donne mon cœur. C'est vendu à toi. Une fois pour toutes, tout ce que je suis, tout ce que j'ai t'appartient. Tout mon temps, tous mes talents, tout mon trésor et même mon corps physique t'appartient. Je suis sauvé, je suis pardonné, je suis lavé et je suis ton enfant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour Alain, Pasteur Claude ici, mon assistant pasteur. On a des bibles que nous aimerons te offrir gratuitement, juste un cadeau. C'est juste en arrière de cette porte, une petite salle de prière. S'il y a des questions, donc ça prend juste quelques minutes. Donc, on t'offre cette bible.